Parler du drame de police, c'est aussi parler du contrôle des armes à feu. Et l'une des voix, sinon la voix la plus constante sur ce débat-là, depuis le drame de Poly, c'est Heidi Rajan. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Heidi, on se connaît du temps que j'étais en politique. Je militais avec toi pour le contrôle des armes à feu, donc je ne ferai pas semblant de ne pas te connaître. Avant de parler du contrôle des armes à feu, il faut quand même rappeler que tu étais là le jour du drame.
Oui.
Tu n'étais pas dans la classe où Marc Lépine a tué?
Non.
Mais tu avais des amis dans cette classe-là?
Oui, j'avais des amis, Anne-Marie Lemay et Barbara Klusnik. Et moi, j'étais dans un local étudiant pas loin de où la tuerie a commencé dans la première classe. Et donc, j'étais très chanceuse de n'avoir rien vu. J'ai tout entendu, mais je n'ai rien vu.
Tu as entendu quoi, les coups de feu?
Les coups de feu, les cris, des choses comme ça. Mais quand on voit pas, on peut rester dans le déni. C'est beaucoup plus facile. Mm-hmm. Et c'était tellement incroyable ce qui s'est passé que, tu sais, ceux qui voyaient pas ne croyaient pas qu'est-ce qui se passait, là. Puis, tu sais, l'idée qu'il y avait des morts, c'était comme, absolument, ça passait pas dans mon esprit. Mm-hmm. C'est vraiment seulement après qu'on a été escortés en dehors de l'édifice, puis qu'on s'est rassemblés une gang chez un ami dans un appartement sur Édouard-Monty, qu'on a écouté les nouvelles, puis là on s'est rendu compte de qu'est-ce qui s'est passé, puis tu sais comment c'était horrifique, puis qu'il y avait des décédés, et même là on savait même pas que c'était juste des filles. C'est venu après là.
Et comment t'as réagi quand t'as su qui était décédé?
Ben pour moi ça a pris plusieurs journées, on était sous le choc, hein. C'est impossible. Nous, c'était la dernière journée de cours, donc on avait juste les examens en tête, là. T'sais, on vit juste pour ça, il n'y a rien d'autre qui compte. Puis c'était un choc qui venait, changer tout, et on n'est pas prêt à tout changer, hein. Alors, pour moi, ça a pris plusieurs journées de réagir avec de sortir du choc et avoir vraiment de la peine. Et moi, je suis une chose que j'ai faite, je suis tout de suite retournée à l'école pour aider un peu à gérer la crise. Il y avait toutes sortes les policiers, les politiciens, les médias, toutes sortes de choses à gérer. Et donc, en tant que... J'étais très impliquée dans le mouvement étudiant.
Mmh, avec l'association donc, étudiante?
C'est ça.
Avec Perrault, notamment?
Oui, Alain Perrault, ouais, c'était mon président, donc l'année d'avant, là, mais j'étais très impliquée. Donc, on m'a comme nommée comme une petite mini représentante là, des étudiants. Puis j'ai rencontré, par exemple, Brian Mulroney et sa femme, des choses comme ça, et parlé aux médias. Et j'ai aussi organisé toutes les photos des filles qu'on voit maintenant partout. Là, c'est moi qui les ai ramassées des parents. Et je pensais que, par exemple, c'était quelque chose qui était très difficile à faire, mais finalement, les parents étaient très contents quand ils très rapidement nous ont envoyé des photos pour.
Ah oui.
Parce que c'était un petit quelque chose là que nous, on voulait s'en rappeler, on voulait leur rendre hommage. En tout cas, pour moi, c'était important de ma façon de gérer la peine puis le deuil, c'était de faire tout ce que je pouvais pour aider.
Et on s'en remet comment, de cette peine-là?
Mais vous savez, moi, j'ai pas perdu une fille ou une sœur, donc c'est les familles qui ont encore la peine, la vraie peine. Pour quelqu'un comme moi, t'sais, je me suis lancée dans le travail et j'ai aussi participé à la pétition pour le contrôle des armes. Donc ça, pour moi, c'était une façon de combattre la violence extrême là, qu'on venait de vivre.
Mmh. Alors, parle-nous-en. Donc, Poly, tout le monde s'entend là-dessus. Ça a été malheureusement la bougie d'allumage. C'est comme si c'est ça que ça nous prenait pour réaliser qu'il fallait mieux contrôler les armes à feu.
Oui, ben à l'époque, on le savait pas, mais en 1989, un jeune de 16 ans qui n'avait pas de dossier criminel pouvait s'acheter avec un permis de 20 $ si on n'a pas de dossier criminel, là, c'est comme ça le seul critère, un arme illimitée de AK-47 semi-automatique sans que personne le sache. Alors, c'était ça la situation à l'époque. Et un peu comme aujourd'hui, hein, on se pensait à l'époque toujours meilleur que les États-Unis, que nous, en tant que Canadiens, on avait un bon contrôle des armes. C'était pas le cas à l'époque.
Dis-nous, qu'est-ce que Poly a changé, là? Pour ce qui est du contrôle des armes à feu, qu'est-ce que ça a changé concrètement, les progrès qu'on a réalisés?
Donc, après, tout de suite après Polly, Kim Campbell, la ministre de la Justice des conservateurs sous Mulroney,
oui,
est venue à l'école, elle a accueilli la pétition et a annoncé qu'il y aura un projet de loi sur le contrôle des armes. Donc, moi et tous les autres étudiants, on croyait qu'on avait fait tout ce qu'on pouvait, tu sais, c'est ça que font les citoyens, on signe des pétitions, on les donne aux politiciens, puis eux, ils font leur job. on a un lobby, l'autre chose qu'on savait pas, c'est qu'on a un lobby des armes extrêmement puissant au Canada, qui avait déjà travaillé pour empêcher des lois plus sévères, mais là, nous, on savait même pas à l'époque. Et là, elle a annoncé ça avant l'été, et le lobby des armes avait tout l'été pour faire du lobby des pressions auprès des députés. Et finalement, en revenant à l'automne, la ministre s'est rendue compte qu'elle avait même pas les votes parmi ses collègues conservateurs pour adopter un projet de loi extrêmement modeste. Là. C'était un pas dans la bonne direction, un cours de maniement sécuritaire des armes, augmenter l'âge à 18 ans, des choses comme ça. Et ça pouvait même pas passer. Puis le projet de loi est mort au feuilleton au premier anniversaire de la tuerie.
Aïe, aïe, aïe.
Et c'est là où on a alors décidé de former un mouvement pour le contrôle des armes, pour contrer le lobby des armes à feu, et on a cofondé la Coalition pour le contrôle des armes.
D'accord.
Alors là, moi, j'ai quitté mon emploi en génie pour, dans ma tête, c'était pour 6 mois, quitter le génie. Mais finalement, on a travaillé une autre année, puis au deuxième anniversaire, on avait un premier projet de loi, le C-17 de Kim Campbell, qui reprenait un peu les mêmes mesures que son premier projet de loi.
Ça a passé?
Ça a passé.
Puis ça prévoyait quoi? Qu'est-ce que ça changeait?
Donc,
En
résumé, c'était un peu plus difficile d'avoir le permis d'acquisition. Et elle avait aussi interdit les chargeurs à grande capacité.
D'accord. Alors, si on fast-forward, comme
on dit. Fast-forward 4 ans, alors sous les libéraux avec Alan Rock, qui était vraiment un excellent, un politicien excellent, lui a décidé de vraiment instaurer un contrôle des armes, tu sais, des mesures globales, raisonnables. Alors avec lui, on a eu les permis de possession, donc pour posséder des armes à feu, ça prend un permis, pas juste pour acquérir. Ensuite, l'enregistrement de toutes les armes. Donc ça, c'est la pierre angulaire du contrôle des armes qui fait qu'on peut suivre les armes. On peut les comptabiliser, on sait à qui elles appartiennent.
On ne parle pas d'un registre, là.
Ça, c'est le registre.
Ça, c'est le registre.
Oui.
Alan Rock, c'est le registre?
Alan Rock, c'est le registre.
Très bien.
Oui.
OK.
Et il a augmenté ou renforcé l'interdiction des armes d'assaut en nommant plus d'armes d'assaut qui seraient interdites. Donc ça, c'est comme les 3 piliers d'un contrôle des armes efficace, sauf que cette dernière mesure, l'interdiction des armes d'assaut, elle était très mal faite et depuis, les manufacturiers d'armes ont pu la contourner, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a autant, sinon plus d'armes d'assaut et elles sont encore plus facilement accessibles parce que ils conçoivent les armes, les nouveaux modèles pour contourner les critères dans la loi.
Sauf que là, Justin Trudeau s'est engagé lors de la dernière campagne électorale à interdire les armes d'assaut. Et même que son nouveau ministre, Bill Blair, a dit « Moi, je veux procéder avec ça ». Et on a appris cette semaine que Justin Trudeau voudrait procéder à l'interdiction d'ici l'été prochain. Des armes d'assaut de type militaire. Est-ce que vous y croyez?
Oui. Oui.
Vous pensez qu'il va le faire?
Oui.
Pourquoi? Pourquoi vous croyez que c'est la bonne, là?
Sachez qu'on est très critique envers les libéraux, surtout pendant le dernier mandat, où ils n'ont pas rempli leurs promesses électorales. Et donc, on n'a pas très confiance dans les promesses un peu vagues.
Oui.
Mais celles-ci, je crois qu'ils savaient qu'on n'allait rien accepter qui n'était pas solide. Et la promesse est très solide. Elle est très spécifique. Il y a un budget qui est rattaché.
Pour acheter les armes.
200
hein?
millions.
Le gouvernement va avoir de l'argent pour acheter des armes qui ont été acquises légalement. Là.
Alors,
c'est des armes légales présentement.
Qui vont devenir illégales.
Puis on va dédommager les propriétaires en rachetant leurs armes. Donc ça vous fait dire que c'est sérieux cette fois-ci.
C'est absolument sérieux. C'est comme la Nouvelle-Zélande. Eux, ils l'ont fait rapidement après leur massacre dans les 2 mosquées. Nous, ça a pris 30 ans.
L'arme de Marc Lépine, le Ruger,
Oui.
Est-ce que cette arme-là est encore légale au Canada présentement?
Non seulement légale, mais elle est non restreinte. Donc, elle est considérée comme une arme de chasse normale. Et ce,
ça,
malgré que
ça,
les
incroyable.
Libéraux avaient déjà promis de l'interdire en 99. Et ils l'ont pas fait parce que le lobby des armes a été trop fort. Nous, on considère cette arme une arme d'assaut. Et Justin Trudeau aussi, pendant la campagne électorale, il a fait référence à la tuerie à Poly comme un exemple où là, il y a eu une arme d'assaut qui a été utilisée. Donc, nous, on est assez optimistes que cette arme-là va faire partie de l'interdiction.
Par contre, pour ce qui est des armes de poing, l'engagement des libéraux, c'est essentiellement de donner aux villes le pouvoir de les interdire puis de pelleter ça dans la cour des villes.
Oui.
Et ça, c'est un manque de courage à vous aussi.
Ça, c'est un manque de courage. Il faut se demander pourquoi on permettrait les armes de poing dans les régions rurales puis interdire juste dans les grandes villes. C'est quoi la légitimité d'avoir des armes de poing? C'est l'arme préférée dans ce cas-ci, des criminels, des gangs de rue. Et il n'y a pas de bénéfice pour les avoir au Canada. On n'a pas le droit d'avoir des armes de poing pour l'autodéfense. Et donc, pour nous, une interdiction devrait se faire au niveau fédéral et pas dans certaines villes.
30 ans plus tard, est-ce qu'à travers ce combat-là, vous essayez de donner un sens à ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut dire ça?
Absolument. Déjà, on a... Tu sais, quand la loi a été adoptée en 95, on a eu une célébration le soir du vote au Sénat. Il y avait des politiciens, il y avait des fonctionnaires, il y avait tous les groupes en appui. Et il y avait aussi les familles des victimes. Et je me rappelle, Thérèse Daviau était là et elle avait dit que c'est le meilleur hommage qu'on peut faire à la mémoire de sa fille et des autres filles parce que c'est un hommage concret qui va sauver plus de vies que ceux qui ont été enlevés cette journée-là. Et effectivement, l'Institut national de santé publique du Québec a évalué qu'au minimum, cette loi aurait changé. Elle était quand même en vigueur pendant 10-12 ans, là, avant que Harper abolisse la plupart des mesures.
Y compris le registre, oui.
Y compris le registre. Donc, ils ont évalué que c'était au moins 300 vies par année qui ont été sauvées. On parle de 3000 vies. Au minimum, puis en plus de toutes les autres, tu sais, il y a d'autres menaces et crimes, tu sais, qu'on peut pas comptabiliser aussi bien. Donc, c'est certain que le travail qu'on a fait a changé quelque chose, a fait du bien. Mais on continue à lutter parce que, comme maintenant, on a vraiment, avec le gouvernement minoritaire, vraiment une chance d'obtenir une mesure qu'on pensait avoir obtenue, mais qui n'était pas vraiment là.
Oui, parce que le Bloc et le NPD, le Bloc certainement, une partie du NPD, là, parce que...
Ah non, le NPD a pris position pendant les élections.
Oui, mais tu sais, le NPD, des fois, avec les députés des régions rurales, ne sont pas toujours fiables, là. Mais bref, avec les libéraux minoritaires, plus le caucus du Bloc, plus normalement le caucus du NPD, ça devrait passer.
On a les votes, oui.
Je veux vous remercier pour votre engagement, Heidi Rajan. Vraiment. Merci. Je vous le dis, là, vous êtes une citoyenne modèle à mes yeux. Et qu'est-ce que tu veux? Je vous dis ce que je pense. Je pense que vous êtes vraiment une femme exceptionnelle. Et j'espère que vous allez continuer. Puis je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Pour ces femmes, notamment les 14 de Poly.
Merci beaucoup.